Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
En compagnie de Guillaume Latendresse. Salut mon Guillaume, comment ça va?
Salut Mario, ça va bien toi?
Ça va très très bien. Alors d'entrée de jeu, là, c'est un petit peu ça la question aujourd'hui pour tout amateur de hockey. Puis qu'est-ce que t'as pensé de... Tu sais, qu'est-ce que t'en as pensé? Premier match préparatoire. Fait que je t'écoute, mon Guillaume, pour mettre la table.
Ben, ce que j'ai pensé, c'est qu'on s'emballe vite.
Ah?
Je pense qu'on retombe dans nos pantoufles rapidement de partisans qui souhaitent avoir une vedette rapidement. Puis je trouve qu'on va vite un petit peu là-dessus, sans rien enlever aux performances de certains jeunes, là, très honnêtement, mais il reste que, tu sais, c'est un calibre de Ligue américaine en ce moment, puis faut être patient quand même, puis laisser la chance de voir autant du côté positif que négatif là, de ce match-là.
Donc, tu as l'impression, alors je suis dans le même état d'esprit, que tout le monde est prêt à trancher rapidement, à y aller d'opinion vite sur un peu tout le monde, avec le grand Slovaque, évidemment, au cœur de toutes les opinions. Tu sens ça que tout le monde a une opinion assez... ça part raide, tu trouves-tu?
Ben, ça paraît, tu sais, j'étais sur la télé aujourd'hui, tout ce que j'écoutais, j'entendais, peu importe le poste que j'étais, c'est Owen Beck, là, tu sais, là, c'est la nouvelle saveur du mois, puis c'est correct, le kid est bon, puis là, c'était les comparaisons avec Patrice Bergeron, puis c'était un Hall of Famer, Patrice Bergeron, là, tu sais, il faisait attention, il y a eu un très bon match, il est solide, il a une bonne tête de hockey, c'est un jeune joueur qui va jouer dans la Ligue nationale, je suis pas inquiet pour ça. Mais attendons de le voir dans une semaine, dans 7-8 jours, avec des vétérans qui s'impliquent un peu plus, avec des vrais matchs. Puis là, on pourra vraiment trancher. Même chose de la part de Slavkovski. Tu sais, plusieurs, il est trop gros, il est 2,38. Là, ça, oui, sa vitesse n'est pas parfaite. Oui, il faudrait peut-être que son poids, whatever, mais il reste que pour moi, soyons patients, donnons la chance. Là. Il faut s'acclimater, faut apprendre le jeu, faut apprendre le système de jeu, faut apprendre le stress de premier match devant. Tu sais, il y a tellement de choses qui sont à prendre en ligne de compte dans cette situation-là.
L'autre jour, Kent Hughes disait, entre autres, par rapport à Slavkovski, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup de ces jeunes espoirs, qu'il faudra trouver des moyens de le protéger. Il se demandait, entre autres, s'il allait... est-ce qu'on va le laisser habiter tout seul à Montréal? Lui qui habite seul depuis l'âge de 14 ans, il était parti en Autriche déjà. En même temps, c'est un petit gars qui a déjà cette autonomie-là, il ne saura pas dire quoi faire. Mais comment protéger un projet comme celui-là, Guillaume? As-tu des idées, toi, qui, sans avoir été un premier choix au total, disons que tu as quand même un vécu que pas mal de monde à l'écoute n'a pas, là, puis moi le premier. Fait que je suis bien curieux de t'entendre là-dessus.
Ben, je pense que c'est de faire attention à son entourage. Une des grandes parties des gars qui pas qu'ils l'échappent, mais qui ont des troubles peut-être à Montréal, c'est l'entourage qui se crée. À partir du moment que tu deviens populaire, tout le monde veut être autour de toi, puis des fois, c'est pas les bonnes personnes qui veulent être autour de toi. C'est pas des personnes qui veulent ton bien. Ils veulent pas mal faire, mais ils veulent profiter à quelque part du standing puis de ce que tu peux amener. Fait que moi, je parlerai avec certains vétérans, certaines femmes, même pour l'inviter souvent dans la maison, comme tu dis, peut-être qu'il ne voudra pas inviter une part, mais je ferai attention à l'entourage de Slavkovski, qui va être autour de lui, avec qui il va aller prendre un verre les soirs de congé. Je pense que ça, c'est important dans le marché de Montréal, qui peut être un marché aussi très attirant. Faut pas oublier, là, c'est un jeune de 18 ans qui va tomber avec de l'argent dans les poches, dans une belle ville comme Montréal. Faut faire attention, puis faut juste être en contrôle. Mais je pense que le kid a une tête des épaules. Mais pour commencer, je pense que c'est ce que je ferais. De faire comprendre la réalité de Montréal, de la ville qu'on est, de la province qu'on est, ce que ça représente. Puis j'essaierai de l'entourer de cette façon-là. Au niveau du jeu, Mario, pour moi, là, tu sais, là, je parle d'Orglas depuis tantôt.
Oui.
Au niveau du jeu, pour moi, Slavkovski, tu sais, oui, ce qu'on a vu, c'est un échantillon très mince. Pour l'instant, je juge pas encore là-dessus. Je pense que peu importe ce qu'il va faire, il va commencer dans la Ligue nationale, puis c'est correct, c'est le premier show total. Puis on évaluera après 8-9 matchs qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Mais tu sais, moi, s'il est capable de jouer dans la Grande Ligue, j'aime mieux le voir avec Martin Saint-Louis. J'aime mieux le voir dans des moments plus difficiles, comprendre, apprendre avec les vétérans de la Ligue nationale qui sont là, les Savard, les Edmondson, ces gars-là, puis grandir comme jeune, que je pense que ça peut être bon pour lui.
Ben, c'est excellent. J'adore tes commentaires, surtout que ben, tu ramènes ça au niveau du jeu. Mais juste pour revenir, permets-moi quand même à l'entourage, ouais. T'en as vu trébucher, là. Parce que, tu sais, je sais que c'est une association facile, mais si un jeune est tenté de sortir, qui peut sortir un mardi, mercredi soir avec bien de l'argent dans les poches? C'est bien rare que c'est du monde qui sont sur un 7 à 3, un 9 à 5, là, hein? On s'entend?
Ouais, exactement. Tu sais, je l'ai vécu là, Montréal. Moi, j'ai été chanceux. Tu sais, je viens d'ici. Fait que j'avais un entourage, j'avais ma famille. Puis, tu sais, comme je dis, peu importe, c'est pas du monde qui veulent mal faire, mais c'est juste qu'ils sont toujours ou plus souvent disponibles. Le monde qui tient dans les bars, dans les clubs, peu importe, sont souvent disponibles, plus accessibles. Donc, ça devient des fois plus facile de pas t'attacher, mais de t'associer ou d'être plus souvent avec eux. Juste de faire peut-être attention à ça, puis choisir ces moments d'avoir un vétéran. Qui l'entoure et qui le conseille, je pense que ça va être important.
Un gars que tout le monde voulait voir à l'œuvre, puis encore là, on va lui donner le temps de jouer plusieurs matchs préparatoires, c'est l'acquisition du Canadien en retour de Romanov, Kirby Dach. Il semble que là aussi, les gens sont sur les dents et prêts à trancher rapidement dans son cas. Qu'est-ce que tu as vu?
On oublie souvent que c'est encore un jeune joueur. Là. Il a pas eu peut-être son éclosion de carrière. Il a commencé avec des attentes très élevées. Il s'est blessé rapidement. Faut être patient. C'est un énorme bonhomme, honnêtement. C'est un gros monsieur. Oui, sa vitesse est pas parfaite. Oui, mais je pense que c'est un gars qui va prendre un petit peu plus de temps à s'acclimater, à prendre sa place. C'est un gars, hier, il y a 18 minutes. Je pense que c'est intéressant comme temps de glace. On veut le voir en avantage. Faut laisser le temps à ce gars-là. Puis justement, dans l'organisation qu'on est présentement, ce gars-là va être capable de prendre sa place puis d'avoir un peu plus d'espace peut-être qu'une équipe qui aspire. Fait que moi, je suis pas inquiet pour ce gars-là pour l'instant avec ce que j'ai vu. Je pense qu'il y a des aptitudes de haut niveau. Puis il faut juste lui laisser le temps de les laisser aller, là.
Je sais pas qu'est-ce qu'ils lui disent loin des caméras puis tu sais le coaching de Martin Saint-Louis, mais tu sais quand t'accueilles un nouveau joueur, j'imagine que tu veux être très très positif. La première chose que Kent Hughes lui a dit quand il a eu au téléphone puis annoncé l'échange, c'est hey Kirby, on va jouer en attaque. Tu sais c'est comme si tu voulais amener un gars à Walt Disney en quelque sorte. Là. Tu veux dire que tout va être beau puis tout va bien aller. C'est pas de ta faute. Ça devait être à Chicago qu'ils t'ont pas utilisé. Je dis pas qu'ils ont dit ça, mais tu comprends ce que je veux dire par rapport à perception. Le gars, je dis pas que c'est mauvais de l'accueillir dans un environnement le plus positif possible, mais j'espère que lui, tu sais, c'est pas, oui, sa blessure lui a empêché de fonctionner, mais j'espère qu'à 21 ans, il a eu le temps de faire un petit regard dans le rétroviseur pour voir lui ce qu'il aurait pu mieux faire également avec Chicago. Tu te départis pas d'un jeune joueur comme ça pour rien non plus, Guillaume.
Non, c'est certain qu'on est extrêmement déçus du côté de Chicago. De mon côté, il y a peut-être un manque de maturité, mais faut pas oublier, pour moi, l'aspect mental de la game est 85-90%. Quand on va chercher, on fait l'acquisition d'un jeune comme ça, Martin Saint-Louis, dans ses propos, souvent on parle du contact humain, du contact, de sentir que tu as une tape dans le dos, là, ça peut faire toute la différence. Puis peut-être que lui, dans l'organisation de Chicago, il était toujours en train de se remettre en question. Il était toujours en train de douter sur ce qu'il devait faire sa patinoire. Puis il tombait une demi-seconde en retard juste à cause de ce petit détail-là. Fait que si on est capable d'enlever ça sur ses épaules, ce questionnement-là, je pense qu'on peut peut-être voir une partie du potentiel de ce kid-là. Fait que je pense que c'est plus dans cette optique-là que Kent Hughes et Martin Saint-Louis doivent parler avec lui. De le faire sentir bien. On te veut ici. On te veut. Tu sais, quand tu sens qu'une équipe te veut, une organisation te veut, puis ils vont pas amener ça plus loin, les gens à la maison qui écoutent, là. Quand ton employeur t'a fait un compliment ou t'a dit, hey, ça, quand t'as fait ça, j'aime ça. J'aime ça. Je veux ça. Comment on se sent bien, puis comment on embarque après ça, puis on a le goût de travailler pour ça, mais. Je pense que c'est un peu cette optique-là qu'on veut emmener ce joueur-là.
Puis il n'y a pas un milieu où ça fait pas du bien d'avoir des petites tapes dans le dos, puis justement qu'on ait un accueil évidemment positif ou quoi que ce soit, constructif, qui va vers l'avant. Puis je comprends qu'on veut le relancer. On n'est pas pour l'assommer en arrivant.
T'sais, mais je l'ai vécu.
Mais moi. C'est pour ça que je pensais à ça en te posant la question. Toi, ils ont voulu comme te casser. Je dis pas qu'il fallait le casser, puis c'était le bon accueil là-bas.
Ils ont voulu me casser, mais en même temps... Premier match ou deuxième match que je suis arrivé, on s'en va en tir de barrage. Qui embarque? C'est moi. Tu sais? Fait qu'ils m'ont mis, peut-être qu'au niveau des mots, c'était différent, mais au niveau des gestes, J'étais arrivé, ils m'ont mis sur le premier, ils m'ont donné une opportunité en or, sur le top 6, en avantage numérique. On s'en va en tir de barrage. Il me met sa patinoire. Fait que, tu sais, oui, c'était différent au niveau des mots, mais au niveau de la confiance, au niveau des gestes, moi, ils ont été extrêmement solides avec moi de ce côté-là. Tu sais, ils m'ont fait confiance en partant, ils m'ont mis dans un rôle important. Je pense que c'est ce qu'on veut voir de ce côté. Tu sais, au final, là, Mario, j'étais pas moins en forme à Montréal qu'à Minnesota. J'avais 3 points en 23 matchs d'un côté, puis je finis avec 25 buts en 55 matchs de l'autre. Je suis le même joueur, je suis le même homme. C'est l'affaire, c'est le mental puis l'opportunité, tu sais.
L'effet de la table dans le dos, mais t'as raison que des gestes qui te témoignent d'une confiance, ça, ça n'a vraiment pas de prix. De façon ouverte, quelques noms, un joueur ou deux, ou quelques joueurs qui, bon, des petits commentaires positifs ou pas, mais juste un petit survol rapide là des autres joueurs que tu as observés.
Ben, le petit duo de, encore une fois, je veux qu'on soit patient, mais le petit duo de défenseurs, les kids, j'ai bien aimé ce qu'ils nous ont, ce qu'ils ont montré, les Harris avec Goulet. J'ai bien aimé ce qu'on a vu là, mais un gars qu'il faut que je lève mon chapeau, c'est Mike Madison, honnêtement. Là, il arrive avec le Canadien, une transaction, c'est un vétéran dans la Ligue nationale. Il se présente de cette façon-là. Oui, c'est comme je dis, c'est un niveau de Ligue nationale, mais son implication, son intensité, c'est ce qu'on veut voir. Puis d'un autre ordre d'idée, un match comme Mike Hoffman nous a offert. J'espère que ça monte sa valeur sur le marché.
Explication, Guillaume, parce que, OK, vas-y, détail.
Ben, j'espère qu'il va continuer à avoir un bon camp comme ça, parce que faut qu'il y ait des équipes qui se disent, oh, ce gars-là peut encore m'aider pour qu'on soit capable de le transiger et de le passer à quelque part.
Parce qu'il n'y a pas de place, là, sur l'alignement en attaque.
Si je veux pas voir Mike Hoffman sur l'avantage numérique à la place d'un jeune. Je veux que les jeunes aient toute la place, la liberté de performer puis d'être bons. Fait qu'espérons qu'ils continuent comme ça, parce que oui, c'est un bon joueur de hockey, mais dans une reconstruction puis dans un vestiaire que tu veux sain, avec des gars qui vont amener un apprentissage puis une évolution puis une vision, une façon de travailler, une philosophie, je pense pas qu'ils cadrent là-dedans. Fait que s'ils continuent comme ça puis on est capable d'avoir quelque chose pour, ben tant mieux.
Ouais, juste seconde, on lève tous la main, tous ensemble. Yeah! Guillaume, juste en terminant, là, on a parlé de blessures de commotion tout à l'heure, je pense que c'est avec Stéphane, mais as-tu regardé du football un peu, le quart arrière des Dolphins de Miami qui était sonné puis qui a poursuivi son match. Ça se pourrait qu'il rejoue jeudi. Puis t'es passé par là. Tu sais, il faut protéger les athlètes d'eux-mêmes, parce que tout le monde dit toujours je suis correct, Puis tu l'as dit toi aussi, je suis correct, hein?
Oui, on dit tout le temps ça. Puis tant aussi longtemps que le joueur ne se respectera pas ou qu'il ne comprendra pas c'est quoi les conséquences futures, ben on va vivre avec des choses comme ça. Puis il y a du monde qui vont regretter plus tard, parce que tu peux pas revenir, tu sais, vivre avec une épaule qui te fait mal, là, c'est quelque chose, mais de vivre avec des problèmes puis des mois tous les jours au niveau de la tête, c'est complètement différent. Puis je pense que faut sensibiliser les gars à ça. C'était pas beau, là. Les images, c'était pas chic, là.
Mais ils ont gagné, hein?
C'est ça. Ils ont gagné.
Hey, Guillaume, salut, bonne soirée.
Salut, mon chum.
Merci d'avoir été là. C'était Guillaume.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Très content de l'accueillir ce soir, alors que la Ligue de hockey junior majeur du Québec et son commissaire Gilles Courteau ont présenté une série de nouvelles mesures pour notamment prévenir les comportements problématiques. Et on veut encourager les gens, ou en fait, la Ligue de hockey junior majeur du Québec veut améliorer en quelque sorte son processus de dénonciation si comportement problématique il y a eu. Il y a eu beaucoup d'autres sujets également. C'est un début de saison. Comme le fait le commissaire à chaque début d'année, ben, c'est un petit peu, en quelque sorte, sa conférence qui lance les activités. Et on le reçoit ce soir, le commissaire de la Ligue, Gilles Courteau. Bonsoir, Gilles. Comment ça va?
Ça va très bien, merci, Mario, et toi-même.
Ça va très bien, Gilles. Content de t'entendre. Donc, c'est un gros sujet, hein, ça, les comportements problématiques. Commençons avec ça, parce que je pense que c'était quand même un gros morceau de la conférence de presse pour lancer la saison de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Puis j'aime la lucidité quand vous dites dans le communiqué que la sensibilisation a ses bienfaits, mais là aussi ses limites. Le manque de jugement peut exister. Il va y en avoir. Est-ce que tu as l'impression, Gilles, penses-tu qu'il y a d'autres histoires du passé qui peuvent ressortir ailleurs au Canada, comme dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Puis s'il y en a, souhaitez-vous qu'elles sortent?
C'est-à-dire que c'est certain que si de jeunes dames ont subi des comportements inappropriés de la part de nos joueurs de hockey, et qu'ils veulent dénoncer le tout, c'est ouvert à ce qu'ils puissent le faire. Dénoncer, c'est ce qu'on veut, qu'ils puissent le faire pour se libérer de ce comportement-là ou de ce qu'ils auraient pu vivre accompagné d'un ou des joueurs de hockey, membres de la Ligue junior majeure du Québec, c'est certain.
Bon, la Ligue a mis en place un comité indépendant. C'est pas la première mesure. Vous encouragez, bien sûr, toute victime potentielle à communiquer avec les autorités policières. Ensuite, ça fonctionne pas. Vous vous dites, ben si les gens ne sont pas à l'aise avec la police, appelez-nous. Et avant d'aller à la troisième mesure, moi, j'ai réagi un peu à ça. Je sais que c'est plein de bonnes intentions, là, puis que le but est noble, mais en même temps, c'est pas un petit peu de reproduire des... Tu sais, la Ligue devrait-elle se mêler de ça ou carrément tout laisser ça aux autorités policières, Gilles Courteau?
Ce que on peut constater, c'est que c'est pas toujours évident pour une victime de porter plainte à la police. Il faut respecter ça. Si cette personne-là n'est pas à l'aise à porter plainte à la police, puis qu'elle veut utiliser notre comité indépendant, on va accueillir le tout de façon très professionnelle et telle qu'on l'a décrit. Si elle n'est pas à l'aise à la police, elle ne veut pas non plus passer par notre comité indépendant. Elle peut faire appel à notre directrice du service d'aide aux joueurs, Natacha Lorenz, qui va par la suite transmettre l'information à nos procureurs et à moi. Et on va procéder à l'enquête avec la ou les victimes et le ou les joueurs concernés.
Tu crains pas, Gilles, malgré toutes les bonnes intentions qui vous animent, de vous retrouver dans un rôle qui n'est pas vraiment le vôtre dans un cas comme celui-là?
C'est-à-dire que pour nous autres, le rôle que l'on a, c'est, dans un premier temps, d'éduquer nos joueurs, de faire de la prévention avec eux. Mais en même temps, ce qu'on a fait avec notre lancement de début de saison, on a mis en place un système de courriel avec une ligne téléphonique qui est dédiée exclusivement aux victimes potentielles, aux victimes qui auraient eu un comportement inapproprié de la part d'un de nos joueurs. Et on appelle ce programme-là le support aux victimes. Lorsque la personne va s'adresser à nous, on va, dans un premier temps, la référer à des organismes qui sont spécialisés selon ce que la personne recherchera. Et en parallèle à ça, on va débuter l'enquête. Pour nous autres, c'est le point qui est important, c'est qu'on l'a vécu depuis maintenant 16 ans avec notre programme d'aide aux joueurs. C'est pas toujours évident pour un joueur d'avoir à se confier ou de raconter la problématique qu'il vit. Je pense qu'au fil des 16 dernières années, notre programme, par l'entremise de Natacha Lorenz, on a acquis beaucoup de crédibilité envers les joueurs, envers les dirigeants, et de plus en plus, les joueurs sont à l'aise, un, du respect de la confidentialité, et deux, des services qu'on leur propose. C'est un peu le même genre de service qu'on veut offrir aux victimes, et par la suite, de rencontrer le joueur, puis d'y aller à deux niveaux. Si il est arrivé quelque chose d'inapproprié, avec une sanction disciplinaire en concordance avec ce qui aurait été fait sur la recommandation du comité indépendant ou nos procureurs et Natacha Lorenz, et par la suite de continuer à encadrer le joueur pour qu'il puisse avoir les ressources nécessaires également pour son éducation plus approfondie encore.
Si une victime appelle au 1-877-650-3555, qui est le numéro justement pour dénoncer une situation, ou encore écrit à l'adresse courriel soutien aux victimes@lhjmq.qc.ca, qui est la première personne qui va prendre l'appel ou lire le courriel?
Natacha Lorenz, notre directrice du service du programme d'aide aux joueurs.
OK, donc, fait que c'est vraiment la Ligue. C'est juste là, tu sais, je veux pas faire de procès d'intention, j'ai juste, c'est comme tout le monde pense à la situation de Hockey Canada, évidemment, là, c'est l'éléphant dans la pièce, puis tu te dis, tu veux pas que la Ligue se mette à gérer ça, parce que, puis là, encore là, c'est vraiment pas un procès d'intention, on jase, comme on dit, on se connaît, ça fait longtemps, puis je sais que t'es une personne exceptionnelle, mais, tu sais, regarde, partout dans le monde, les business, ils protègent la business avant de protéger la victime. C'est le réflexe naturel. Pourquoi la Ligue de hockey junior majeur du Québec serait différente des autres?
Ben moi, je vous dirais que la réponse à ça, c'est regardons ce qu'on a fait avec Nicolas Degg et Massimo. On les a suspendus. Il est arrivé une situation à Québec inappropriée. Il y a eu une plainte qui a été faite à la police. Lorsque les accusations sont tombées, elle a suspendu. Aujourd'hui, dès qu'il y aura une plainte qui sera soumise à la police, les joueurs vont être suspendus indéfiniment. Pour nous autres, c'est on veut que la personne concernée qui est une victime qui est une présumée victime puisse savoir que en plus du service judiciaire de la mettre à l'aise pour dire vous voulez soumettre votre cas à notre comité indépendant qui est ce comité là on a beaucoup de professionnels dans ce comité là on a beaucoup de gens avec des expertises qui ces membres du comité là pourront à leur discrétion utiliser des ressources additionnelles justement pour entendre là où les présumés victimes, là où les joueurs et se faire une tête sur ce qui est exactement arrivé pour arriver avec la recommandation la plus appropriée au niveau de la sanction disciplinaire s'il y a lieu.
Bon, j'ai fait allusion, Gilles Courteau en entrevue avec nous, commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, j'ai évoqué Hockey Canada, allons-y, après ça on pourra peut-être parler d'hockey, parce que c'est de ça dont il est question hein, finalement, mais quand même, on peut pas l'éviter, comme commissaire, comme haut dirigeant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, partenaire de la Ligue canadienne de hockey, est-ce que le scandale qui ébranle et la façon de gérer le scandale d'Hockey Canada, est-ce que ça affecte vos activités, vous autres, la Ligue de hockey junior majeur du Québec? L'incertitude, puis la gestion du scandale, est-ce que ça vous affecte carrément?
C'est-à-dire que ça a affecté le monde du hockey en général. Il n'y a aucun doute là-dessus. Au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, il y a eu peu de commanditaires qui se sont retirés en raison de ce qui a pu arriver à Hockey Canada. Mais pour nous autres, l'élément qui est important, Mario, puis c'est une très bonne question qui est posée, c'est qu'on a maintenu la confiance des joueurs, la confiance des parents à l'égard de ce que l'on offre comme programme d'encadrement pour les joueurs. Et on a fait la démonstration que dans les années passées, où est-ce qu'il y avait des situations qui nous étaient partagées, qui pour lesquelles ils méritaient d'avoir sanctions disciplinaires, on a agi en conséquence. Alors, je pense que de ce côté-là, notre crédibilité est en place. Nos services sont appropriés, autant pour la victime, là où les victimes, que pour les joueurs avec notre nouveau programme qu'on vient de mettre en place, le support aux victimes, que pour les joueurs qui seraient mis en cause dans une situation inappropriée qui serait survenue. Alors, tous ces éléments-là font en sorte que, comme je le mentionne à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, notre programme d'aide aux joueurs qu'on a en place depuis maintenant 16 ans, on l'a amélioré au fil des années, on l'a élargi, on donne beaucoup d'opportunités aux joueurs d'utiliser des services auxquels ces derniers pourraient avoir recours pour différentes raisons. Et là, on vient de renforcer tout le volet sexuel, si je peux l'appeler ainsi, parce que là on va mettre des conférences, ouais. On va mettre des conférences sur la notion du consentement qui vont être offertes par Madame Léa Clermont-Dion. Il va y avoir 4 conférences, 2 en anglais, 2 en français, où est-ce que non seulement les joueurs, mais les membres de la direction, nos officiels vont être invités à participer à ces conférences-là pour exactement être au fait de ce que tu peux et ne peux pas faire et de quelle façon tu peux et ne peux pas le faire pour que les joueurs comprennent davantage. Mais comme tu l'as dit en début d'entrevue, malheureusement, il se peut que dans certaines occasions, il y ait un manque de jugement et c'est là que les 3 niveaux d'enquête qu'on a mis en place vont déterminer la sanction disciplinaire accordée aux joueurs.
Une question plus directe par rapport à Hockey Canada. Es-tu à l'aise que le président nommé là récemment, qui a succédé évidemment à Tom Rennie, reste en place? Es-tu à l'aise avec la présidence de Scott Smith?
Je suis à l'aise, si je suis à l'aise avec la présence de Scott Smith, c'est sûr que dans le moment, c'est la personne la plus visée dans tout ce contexte-là. Moi, ce que je dis depuis le début, depuis que le conseil d'administration d'Hockey Canada a confié un mandat indépendant au juge Gromwell, de voir qu'est-ce qu'il va ressortir de ce comité-là, quelles vont être les orientations que le comité va donner au conseil d'administration d'Hockey Canada. Puis si en bout de ligne, il est décidé que Scott Smith n'est plus la personne, mais malheureusement pour lui, mais je pense que c'est ça sera ça qui aurait été la conséquence. Cependant, je ne crois pas personnellement que ça doit être une maison, un clean house, comme on appelle, complet au niveau de Hockey Canada. C'est certain que l'incident de 2018, puis ça je l'ai dit puis je vais le répéter, n'a pas été géré correctement dès le départ, mais pendant 4 ans, on n'entend plus parler de rien jusqu'au moment où ce que la jeune fille dépose une procédure judiciaire contre Hockey Canada, puis qu'il y a eu un règlement qui a été fait. Mais c'est sûr que si, je suis convaincu que si cette même situation-là survenait, que Hockey Canada réagirait complètement différent de ce qu'ils ont fait au moment où est-ce que c'est arrivé, même si l'intention était très louable lorsqu'ils ont embauché une firme d'avocats indépendants pour procéder à l'enquête, puis on sait que les résultats n'ont pas été ceux escomptés, malheureusement, mais là, dans le moment, le processus d'enquête se continue, puis on verra quel va être le résultat de ça lorsqu'ils auront terminé leur enquête.
Ils ont engagé une firme de relations publiques qui a déjà géré des scandales dans des fédérations sportives canadiennes auparavant, et t'as pris connaissance comme tout le monde, puis encore une fois, ça a créé une nouvelle vague d'indignation. Juste dans la façon dont les questions sont posées, des questions tordues qui amènent la personne qui répond finalement à pencher sur le bord du fait que tout ça, c'est on charrie, on en met bien trop épais, blown out of proportions, etc. Es-tu à l'aise avec ça aussi, Gilles?
Mais c'est-à-dire que dans le moment, là, tu sais, pour moi, je suis pas impliqué dans le processus de sélection de la compagnie de communication, puis comment est-ce que je fais le sondage, puis ces choses-là. C'est sûr que quand tu regardes ça de loin, tu te demandes d'abord dans un premier temps la question que je me suis posée depuis le début, depuis le jour 1, qui conseille Hockey Canada de faire tout ce qu'ils ont fait jusqu'à ce jour. Moi, personnellement, c'est pas une orientation que j'aurais aimé prendre, que j'aurais souhaité prendre, avoir été dans le bateau de Hockey Canada. Je sais pas exactement qui ils ont consulté pour en arriver à ces conclusions-là, puis à cette façon de faire-là, mais c'est sûr que de notre côté, ça aurait été différent. Puis c'est ça qui met mal à l'aise, parce que c'est tout le travail, puis là, je vais parler pour la Ligue junior majeure du Québec, là, tout le travail qu'on fait pour assurer l'encadrement de nos joueurs sur et hors glace, et de voir une situation comme celle qui est survenue en 2018 éclabousser le monde du hockey amateur. Je pense que beaucoup plus de choses positives qui a été faites dans les 50 dernières années au niveau du hockey amateur au Canada que d'éléments négatifs. Malheureusement, l'incident de 2018 fait très mal, met l'ensemble du hockey dans une position extrêmement délicate. Puis je pense que ça va être par des actions positives, par des gestes concrets, solides, qu'ils vont être en mesure de regagner la confiance puis de reprendre leur place dans l'échiquier de sport amateur numéro 1 au Canada. Puisque là, dans le moment, c'est certain que c'est remis en question. On s'acharne beaucoup, à tort ou à raison, sur Hockey Canada, mais je pense qu'ils ont à se frapper dans l'estomac, parce que c'est eux qui ont accepté les recommandations qu'ils leur ont été faites par les différents comités ou organisations consultatives qu'ils ont utilisées pour en arriver là. On voit dans les dernières semaines qu'il y a différents gestes qui sont posés, qui sont contraires à ce qu'ils avaient l'habitude de faire, et puis qui est un peu dans la bonne direction. Mais je pense que tant ou si longtemps que le rapport du juge Gromwell ne sera pas déposé et qu'il n'y aura pas d'action concrète de prise pour, un, l'élection d'un nouveau conseil d'administration, et deux, de voir si la permanence qui est en place au niveau des officiers seniors, c'est avec eux que ou non que Hockey Canada doit continuer à opérer. Et à ce moment-là, on verra, puis on vivra avec les conséquences de ça.
OK, je veux juste compléter. C'est quand même toute une réponse, là. Gilles Courteau, qui est avec nous, commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est tellement une grosse histoire que je pense qu'il fallait prendre un peu de temps pour en parler. Bon, il y a beaucoup de choses dans ta dernière réponse, clairement, puis dis-le, si je veux pas te mettre des mots dans la bouche, loin de là, là, mais donc, j'ai pas l'impression que le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec trouve que Hockey Canada communique très bien la gestion du scandale, qu'ils sont pas très, très bien conseillés, que tout le monde, finalement, est éclaboussé par ça à l'échelle du pays. Ne serait-ce que pour ces raisons-là, je veux bien, j'applaudis la patience ou le recul de dire, OK, on va attendre le résultat de la commission, mais ne serait-ce que pour toutes ces raisons-là, pour ranimer la confiance envers l'organisme, j'ai envie de décoder que, sans le dire directement, que tu as envie que, mettons que c'est ça, un grand changement à la haute direction serait peut-être important pour ranimer le sentiment de confiance envers l'organisme, non?
C'est-à-dire que, tu sais, Mario, dans le moment, c'est Hockey Canada, c'est un organisme qui est dirigé par un conseil d'administration. Ce conseil d'administration-là est un conseil d'administration bénévole à Hockey Canada. Ce sont des gens qui sont principalement issus du hockey mineur de chacune des provinces au Canada qui opèrent dans la structure de Hockey Canada, qui font partie du conseil d'administration. Ce conseil d'administration-là, eux autres, prennent la décision de d'élire les personnes, de donner des contrats aux gens qui sont en place à partir du président de Hockey Canada, Scott Smith. Tu sais, Scott Smith, là, il est arrivé dans une situation extrêmement difficile. Lui, c'est comme...
Mais il est allé avant, Gilles. Il est allé avant,
oui,
là.
Oui. Non. Je suis entièrement d'accord avec toi qui était là, qui était sur place, puis qu'il était au courant de ça. Mais ce que je veux dire, comme président, quand tu deviens la tête d'affiche d'une organisation, où est-ce que tu subis tout ce qui survient, qui découle de ça, c'est malheureux pour lui, mais c'est exactement comme tu dis. Il est devenu le président, puis il faut qu'il assume tout ce qui découle de ça. Moi, personnellement, comme être humain, comme personne, mettons de côté la présidence d'Hockey Canada, Scott Smith, c'est une très très bonne personne. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un de nonchalant, c'est pas quelqu'un qui ne porte pas attention aux détails de ce qui se passe. Au contraire, mais comme je dis, à l'origine, c'est que dès le départ, le processus d'enquête, la non-collaboration des joueurs sur recommandation de leurs agents, de leurs avocats, qui a fait en sorte à ce que les joueurs ne se sont pas présentés devant l'avocat Hutchison et ses pairs. C'est là que ça a mal commencé. Si les gens étaient arrivés et avaient dit aux joueurs, tu ne collabores pas avec notre avocat, aucun problème. Nous autres, là, on portera pas de sanctions disciplinaires parce que tu aurais pu te retrouver au même endroit où est-ce que la jeune fille aurait pu subir des gestes complètement inappropriés, mais tu es suspendu pour faute de collaborer avec l'organisme qu'on a désigné pour faire la lumière sur un dossier qui nous a été rapporté.
Ça serait le bon réflexe, mais on a le réflexe de souvent abrier la patente, tu sais, qu'on dirait que c'était, tu sais, parce qu'en tout cas, ouais. On verra que, comme tu dis, Gilles, écoute, c'est incroyable quand même, c'est là qu'on est rendu gérer du hockey junior au pays. On n'a même pas parlé de hockey encore. Tu me permets, t'as encore quelques minutes, on va faire une courte pause et on va parler de la saison de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est possible, Gilles?
Parfait, aucun problème.
OK, parfait. Fait qu'on revient dans quelques instants. Je voulais pas abuser de ton temps, mais tu sais, il fallait toujours bien les adresser, ces sujets-là. Alors, on vient tout de suite avec Gilles Courteau, commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport.
En longue entrevue, c'est le début de la saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec le commissaire Gilles Courteau. Bon, on a parlé de sujets sensibles, là, les nouvelles mesures pour prévenir les comportements problématiques, l'opinion du commissaire sur tout le dossier de Hockey Canada. On va tenter ça un peu, Gilles, et on va parler d'autres choses, tiens, pour détendre l'atmosphère. As-tu une opinion sur le troisième lien, tiens?
J'ai pas le temps de m'occuper des choses à l'extérieur du hockey depuis plus de 10 ans. Le hockey n'a que beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
OK, bon, parfait. Une autre petite facile. Est-ce que Le 8 juillet dernier, après la fin du repêchage de la Ligue nationale de hockey à Montréal, un sujet qu'on a abordé souvent ensemble, as-tu ouvert une bouteille de champagne quand le Canadien a choisi Miguel Tourigny en septième ronde, un premier choix parmi leurs 14 disponibles dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec? T'es-tu senti honoré?
Non. Absolument pas.
Qu'est-ce que t'en as pensé? Étais-tu déçu? Franchement, là, j'arrête de faire des blagues. T'étais-tu déçu?
Ben, c'est sûr que j'étais déçu. Moi, je suis pas déçu de la sélection que le Canadien de Montréal fait à chaque année pour les joueurs. Parce que la finale de sélection, c'est mondial. Tu prends les meilleurs joueurs au monde pour jouer junior majeur. Ce que le Canadien de Montréal doit faire, selon moi, c'est arrêter de dire qu'ils vont accorder de l'importance à la Ligue de hockey junior majeur du Québec, puis qu'ils vont faire en sorte de sélectionner des joueurs, donner de l'importance à la Ligue en faisant certaines choses. T'sais, ils ont invité plusieurs joueurs de notre Ligue au camp d'entraînement, au camp des recrues, mais ça passe pas par là, ça passe par la séance de sélection. Alors, pour moi, c'est le Canadien, si une année, il en sélectionne 3, 4 ou 5, tant mieux. Ils en auront sélectionné 3, 4 ou 5, mais mis à part ça, là, je ne pense pas que le Canadien se doive de continuer de dire haut et fort qu'ils vont accorder une importance à la Ligue junior majeure du Québec quand dans les faits, c'est pas ça. C'est pas ça qui se passe.
C'est du marketing, dans le fond, quand ils disent ça?
Je sais pas comment est-ce qu'il faudrait poser la question aux Canadiens de Montréal. Moi, ce que je vous dis, c'est pas la réalité. Dans le moment, je les blâme pas de ne pas sélectionner plus de joueurs. Ce que je dis, c'est...
Arrêtez de le dire.
C'est ça. Arrêtez de dire que vous voulez accorder une importance particulière à la LHJMQ quand les résultats sont pas là. Dites pas ça. T'sais, dans le moment, c'est que le travail des recruteurs du Canadien, le travail de Kent Hughes, de Jeff Gordon, c'est de trouver les meilleurs joueurs disponibles pour faire la meilleure équipe, pour gagner des matchs, prendre part aux séries éliminatoires, de se rendre plus loin, à la grande satisfaction des amateurs, des commanditaires et des dirigeants hockey. Mais dites pas qu'ils veulent accorder une importance, ils vont accorder une importance particulière à la Ligue junior majeure du Québec quand la réalité n'est pas là du tout.
J'aime ta réponse. Je sais que c'est hypothétique ce que je veux dire, là, mais pour c'est quand même, je trouve intéressant d'en discuter. On jase. Tout est dans l'œil de ceux qui regardent. Hein? Quand tu y crois, tu y crois. Je me rappelle, une certaine année, il y avait beaucoup de débats entre Seth Jones et Nathan McKinnon. Il y avait un gars qui avait joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, puis il y a un gars dans son organisation qui a dit « Hey, c'est lui qu'il faut prendre. » Et son organisation, qui n'est pas le Canadien de Montréal, l'Avalanche Colorado, l'ont pris. On jase. Tu penses-tu que Patrick Roy avait été nommé au dirigeant du Canadien de Montréal, il y aurait eu juste un gars de la Ligue junior majeure du Québec repêchant en septième ronde?
Patrick avait eu l'opportunité d'avoir été avec l'équipe toute la saison, d'avoir vu les joueurs disponibles dans la sélection et aurait été en mesure de pouvoir, comme il l'a fait avec Nathan McKinnon, il l'avait connu pendant tant d'années dans la Ligue junior majeure du Québec, il avait joué contre les Remparts, il avait été en série éliminatoire contre les Remparts, il le connaissait, il avait probablement pas vu Seth Jones aussi souvent, mais il connaissait Nathan McKinnon, c'est ça qui l'a amené à débattre son point, puis aujourd'hui, je pense que c'est lui qui avait raison dans la sélection de McKinnon. Aujourd'hui, c'est sûr que Patrick Roy, s'il avait été avec le Canadien de Montréal, il aurait travaillé très fort pour qu'il y ait plus de joueurs sélectionnés. C'est certain.
Aucun doute. Parlant de Patrick, bon, son calendrier préparatoire commençait avec des manchettes dont il se serait sûrement passé une suspension, une altercation avec les arbitres. Est-ce que tu as jasé un à un avec Patrick comme commissaire de la Ligue?
Non, j'ai pas jasé individuellement avec lui. J'ai eu une rencontre avec Patrick, Jacques Tanguay, Richard Trottier, directeur de l'arbitrage, et Éric Chouinard, directeur de la discipline, ont eu une très bonne rencontre, les cinq personnes ensemble.
Oui, mais penses-tu que c'est réglé? Tu penses-tu que Patrick a compris quelque chose? Puis je dis pas qu'il y avait juste lui qui avait à comprendre quelque chose. Avez-vous compris quelque chose de ce que lui revendiquait? Puis bon, y a-t-il un bout de chemin à faire de tout le monde là-dedans?
C'est pas la première fois qu'on a une rencontre avec un directeur gérant, un traîneur-chef, puis un propriétaire. Puis à chaque fois, il y a toujours des éléments positifs qui se retrouvent des deux côtés. Et avec la rencontre qu'on a eue avec les Remparts de Québec, j'arrive à la même conclusion de dire qu'on retire de ça des éléments positifs des deux côtés, ou est-ce que chaque côté, on a des éléments améliorés toujours pour faire en sorte de rendre la game meilleure. et de s'assurer que tous les intervenants vont trouver leur compte, autant du côté des dirigeants, des joueurs que des officiels.
Intéressant comme réponse. Maintenant, quel est le portrait post-COVID de la fréquentation des arénas au Canada, mais évidemment Maritime, Québec, les arénas de la Ligue de hockey junior majeure du Québec? Si on regarde sur un horizon de 5 et 10 ans, est-ce qu'il y a une situation qui faut, est-ce qu'on craint qu'à un moment donné que les arénas soient désertés ou au contraire, je fais fausse route, il y a un regain de popularité potentiel ou possible?
Oh non, moi je pense que tu fais fausse route, Mario, parce que les amateurs aiment la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, aiment le produit qu'on offre. Il y a des gens qui sont fidèles. On a eu un mauvais début de saison avec notre division des Maritimes, avec l'ouragan Fiona, qui nous amène à reporter plusieurs matchs, mais lorsque le tout se sera régularisé, vous allez être en mesure de constater que les amateurs vont se présenter en grand nombre dans nos amphithéâtres. Puis on l'a vu depuis le début de la saison avec dans la plupart de nos arénas de très bonnes assistances. C'est très encourageant.
Ben, tant mieux, parce que c'est ce que je souhaite. Puis d'ailleurs, je souhaite, ça fait longtemps. Ben, moi, je suis pas chanceux là-dessus. T'sais, on a milité souvent dans le temps à Sherbrooke pour un club des années qu'on n'avait pas. J'étais à Val-d'Or, je faisais de la radio, on voulait un club. Finalement, ils n'ont eu un, mais je suis parti de Val-d'Or. Là, écoute, je veux un club, ça arrive sud, monsieur le commissaire. Ça s'en vient-tu bientôt, ça?
Mais trouver une grue, une pépine qui va creuser un trou, puis ça va être pour bâtir un aréna de 5000 sièges, puis là, je vais être en mesure de faire une autre entrevue avec toi à la radio pour te dire qu'il va y avoir une équipe sur la Rive-Sud. Tant ou si longtemps que ça n'arrivera pas, il n'y aura pas d'équipe sur la Rive-Sud, il n'y aura pas d'équipe de la région métropolitaine.
Est-ce qu'il y a des discussions avec des municipalités, avec des gens en mesure de faire en sorte que ça arrive? Est-ce qu'il y a une ville qui regarde ses installations sportives puis qui se dit que ça serait une bonne idée? Est-ce que toi, Gilles, comme commissaire, t'entretiens ces discussions-là avec des investisseurs potentiel?
J'ai eu plusieurs rencontres, aller jusqu'à la pandémie, avec différents investisseurs. J'ai même rencontré des municipalités qui manifestent un intérêt pour obtenir une franchise de Ligue junior majeure du Québec. Mais le tout passe par la construction d'un aréna neuf. Alors, tant ou si longtemps qu'on n'aura pas la construction d'un aréna neuf, je ne crois pas être en mesure de revenir à nos propriétaires, à nos équipes, faire une recommandation quelconque pour aller jouer dans un aréna où on est déjà allé et que ça n'a pas fonctionné.
D'accord. Ben ça, je suis d'accord avec toi là-dessus, puis avec vous autres, les gens qui te conseillent. C'est sûr que ça prendrait du neuf. Maintenant, bon ben. Donc, c'est pas demain la veille, là, on comprend qu'il n'y a pas de pelletée de terre qui est annoncée nulle part. Qu'est-ce qui t'excite à poursuivre l'aventure comme commissaire, alors que ça aurait peut-être été facile de dire hey, j'ai fait tout un boulot pendant tellement de décennies. Là, il y avait quand même des situations là, pas évidentes à gérer, là, les comportements problématiques, la situation d'Hockey Canada. Qu'est-ce qui t'excite à poursuivre comme commissaire de la Ligue? Gilles.
Exactement comme tu m'as mentionné tantôt, je pense que le défi numéro un, c'est de remettre le bateau sur la bonne voie avec un retour à la normalité dans nos 18 amphithéâtres, de ramener le monde dans nos arénas, de continuer à créer un spectacle, à donner un spectacle intéressant pour nos amateurs de hockey, non seulement pour la saison 2022-2023, mais pour les années à venir. Puis ça, c'est un défi qui est très intéressant pour le bénéfice de nos équipes et de tous nos intervenants. Puis de continuer également à travailler avec nos joueurs de hockey pour leur permettre d'atteindre les trois objectifs qu'on a à l'heure actuelle. C'est un, de faire deux des très bons joueurs de hockey. Deuxièmement, de leur permettre de pouvoir bien assimiler études et hockey si à la fin de leur carrière, junior, ils décident de poursuivre leurs études. Et troisièmement, d'en faire des bons citoyens.
Ben Gilles, bravo pour l'ensemble de l'œuvre et bonne chance pour à toutes les équipes. Bonne chance à la Ligue pour la prochaine saison en espérant que les gens seront nombreux dans les arénas. Un gros merci de cet entretien, c'est très apprécié.
Merci Mario.
Merci Gilles, au revoir. Gilles Courteau, commissaire de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Alors, beaucoup de hockey cette semaine. Il y aura deux autres matchs présentés à l'antenne demain soir à Toronto. Jeudi soir, on revient à Montréal au Centre Bell. On aura une émission complète jeudi contre Winnipeg. Vendredi, on sera là. On est toujours là de toute façon après les matchs. Émission complète ce soir et vendredi entre les deux premiers matchs préparatoires. Quelle a été la première impression laissée par le premier choix repêchage auprès de mon ami Stéphane White? Puis je dis Slavkovski parce qu'évidemment, c'est le gars qu'on voulait tous voir. On l'a senti dans l'ambiance qui régnait à première fraction de seconde que tu as rondelle, t'as senti que le public allumait ou s'allumait ou je sais pas trop comment le dire, mais il y avait quelque chose qui se passait, même si c'est pas passé grand chose tant que ça sur la glace, cela dit. Stéphane, bonsoir.
Mario, comment ça va?
Ça va bien, mon cher. Toi, premier match préparatoire, j'ai senti que les gens t'en appétit. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un match du Canadien. Quand tu manques les séries, ouais. C'est long, hein, une saison morte. Quand t'es... Tu l'as vécu, toi, Chicago, avant de gagner. Tu sais, comme quand tu fais pas les séries, c'est-tu long l'entre-saison, Steph, pas à peu près?
Non, c'est certain. Écoute, l'été est très long et puis, on a hâte, ça recommence quand tu fais pas les séries. Puis j'ai connu l'autre... À l'envers de la médaille, quand on joue jusqu'au bout, jusqu'à la fin juin, en finale de la Coupe Stanley, là, c'est le contraire. L'été est court, puis pas à peu près.
Vraiment. Donc, dis-moi ce que tu as pensé des gars que tu as vus. Bon, j'ai parlé du grand Slovaque, mais oui.
Ouais, premièrement, moi, j'ai aimé le match. Honnêtement, là, contrairement à bien du monde aujourd'hui qui ont dit que c'était un match ordinaire. Moi, un score de 2-1, pas beaucoup de chances de marquer d'un bord puis de l'autre, plus mm-hmm. du New Jersey. Mais il reste que c'était un match où ce que j'ai trouvé le pace, le tempo assez rapide. Les joueurs ont travaillé fort avec intensité. Et puis, j'ai aimé, il n'y a pas beaucoup de joueurs que j'ai pas aimé, honnêtement, là, pour le Canadien, même si, faut l'avouer, New Jersey a mieux joué. Et puis aujourd'hui, un petit peu comme tout le monde, j'ai entendu plein de choses un petit peu, je sais pas, je pourrais dire ça, de négatif de Slavkovski. Moi, je suis pas de cet avis-là, pas en tout. Moi, écoute, j'ai aimé ce que j'ai vu hier de ce gars-là. Je m'attends pas à rien. Hein. On a l'impression qu'on s'attend à ce que ce soit un Connor McDavid. Et puis, je sais pas, il y a déjà un petit aura négatif en entour de lui après seulement un match hors concours. Et puis, moi, Mario, j'ai aimé, premièrement, c'est pas rien de nouveau, mais j'ai aimé tout son physique. Tu le vois, là, qu'il est physiquement prêt pour la Ligue nationale. Puis, j'ai vu des batailles un contre un hier où il est sorti avec la rondelle. J'ai vu un contact sur le bord de la bande en avant du banc de New Jersey où ce que honnêtement il était plus fort que l'adversaire, un vétéran de la Ligue nationale. Et puis j'ai vu une couple de percées, une couple de fois qu'il a transporté la rondelle. Mais à un moment donné, il a récupéré la rondelle dans le fond de la zone en un contre un. Il a ressorti avec la rondelle. 4-5 coups de patin, une belle passe. C'est des jeux, ça, que pour un jeune, c'était j'ai dit wow! Moi, là, il n'y a rien de négatif à propos de Slavkovski hier.
Bon, il y en a qui insistent beaucoup, beaucoup sur le fait que, bon, là, il serait possiblement ou potentiellement trop lourd, pas assez vite, donc dans les espaces restreints. Vois-tu des signes? Puis je dis pas que les gens qui pensent ou qui disent ça ont pas raison. Je veux juste avoir ton avis sur ça. Est-ce que tu vois des choses? Devrait-il être un petit peu plus léger, par exemple?
Ça m'inquiète pas. Puis, je vais te dire, ça arrive souvent que les jeunes arrivent au camp d'entraînement avec un surplus d'entraînement. Les gars ont travaillé fort pour se grossir l'été. Et puis, avec le rythme des pratiques, puis le rythme de la Ligue nationale, où ce qu'on pratique à tous les jours, les voyages, les parties, beaucoup de parties, ces gars-là, la plupart du temps, perdent
ce surplus-là.
Cette masse-là qu'ils ont. C'est pas un surplus parce que les gars sont en shape. C'est certain, ce gars-là s'est entraîné tout l'été, puis pas à peu près. Et puis, je peux te dire que ça m'inquiète pas parce que ces gars-là sont tellement bien suivis à ce temps par les préparateurs physiques. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète pas une seconde.
Ça te prend combien de temps, toi, cliquer ou démissionner sur un joueur? Puis je parle pas du grand Slovaque, mais juste, tu sais, de façon générale. Parce que, tu sais, je trouve ça vite qu'un match préparatoire ou tu sais, dans le cas des Européens, un premier match sur les petites glaces, bien souvent, ils ont peut-être joué quelques tournois ici et là, que 17-18 minutes permettent de déjà trancher un débat là, auquel on aura une réponse en 3-4 ans, tu sais, peut-être même dans 5.
Exactement. Mais tu l'as dit, 3-4 ans pour un avant, plus pour un défenseur, puis encore plus pour un gardien de but. Donc, un gardien de but, là, jusqu'à 25 ans, là, il m'a donné à fait être en pleine période de développement. Un défenseur, ça prend même affaire souvent, là, à 24, 25, commence à être mature pour pouvoir jouer régulièrement dans la Ligue nationale. Puis un attaquant, ça peut prendre 2-3 ans. Donc, écoute, là, il y a Slavskarski à 18 ans, là, déjà, là, moi, là, j'ai déjà, là, moi, personnellement, je reviens pas qu'il y ait la force physique pour jouer avec des hommes, puis le talent, puis le coup de patin, puis tout le kit, ça va venir. Le gars, il est en pleine période d'ajustement, et puis, je suis même pas inquiet. Hier, pour résumer, j'ai aimé Slavskarski. Autre recrue que j'ai aimé hier, les trois poupes. Le meilleur hier des recrues, c'est Owen Beck. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, c'est ma surprise du camp d'entraînement, Mario.
Oui, hein. Moi aussi, honnêtement, là, je suis en train de le découvrir. Puis hier, ben, je l'ai vu. Tu sais, j'avais regardé quand même pas. Moi, je voulais me garder, petit John. J'aimais entendre ce que le monde disait. Puis je voulais commencer à regarder au match préparatoire. Toujours bien des limites à mener le tournoi des recrues, tout ça, là.
Oui. Oui, écoute, mais là, écoute, il y a 18 ans. On s'entend tous, là, qu'il jouera pas à Montréal. Il va retourner junior. Ça, c'est réglé, mais c'est l'impression qu'il laisse à Montréal. C'est ce que lui, son but, là, c'était juste de donner une bonne impression. Puis c'est réussi, pas à peu près. Même s'il serait coupé demain matin, il a laissé une bonne impression au camp en partant du camp des recrues la semaine passée à Buffalo, qui s'est suivi dans les matchs intra-équipe et qui a joué hier là, il était bon. Moi, il m'impressionne parce que ce gars-là, puis j'ai regardé des rapports sur lui aujourd'hui, des rapports de dépisteurs, puis tout le monde est unanime pour dire ce gars-là, il est pas wow dans rien, mais il est bon dans tout. Il est bon patineur, c'est un bon passeur, c'est un bon marqueur, c'est un très bon gars dans les mises au jeu, mais son plus grosse qualité, c'est son hockey IQ. C'est un gars qui comprend la game dans toutes les zones. Un gars qui comprend la game dans toutes les zones. Et puis ça, là, c'est tout un choix de deuxième ronde que le Canadien a fait.
Début de deuxième ronde, t'sais, vraiment pas loin de la première ronde. Hein. Alors, tu sais, ces gars-là ont moins de pression. C'est comme Messer. C'est sûr qu'ils ont moins de pression que les tout premiers gars repêchés. Ça vient avec. C'est normal qu'il y en ait des attentes. Je dis pas que je vois les textos qui défilent sous mes yeux. C'est normal qu'il y en ait des attentes. Mais on peut-tu laisser le gars arriver? Puis moi, ce que j'ai très hâte de voir, autant pour lui que pour tous les jeunes, le niveau d'ajustement d'un match à l'autre, Stéphane. T'en as vu des jeunes entrer dans la Ligue nationale. Qui est capable d'un match à l'autre? Puis il y en a, t'en as vu, gars, Beck, il nous le montre. Des gars qui allument vite, tu sais, puis qui prennent déjà des décisions de gars matures. Fait que ça te permet de grimper les marches bien plus vite sans rien précipiter, là.
Exactement. Donc, j'ai aimé Slavskarski, j'ai aimé Beck, et le troisième que j'ai aimé dans les recrues, c'est Caden Gooley.
Ah!
Hier, on dit en anglais, là, Mario, là, il y a du poise avec la rondelle. Tu sais, je veux dire, quand il y a la rondelle, là, il est patient, il est confiant, et puis il se débarrasse pas de la rondelle pour rien. Et puis, tu sais, ça, c'est ce qui m'a impressionné le plus d'hier. Deux ou trois fois, je l'ai vu prendre la rondelle derrière le filet, faire une sortie de zone en patinant avec la rondelle, en étant la tête haute.
Tout un coup de patin, Steph. Tout un coup de patin aussi, quand il a traversé la glace, là, deux fois.
Oui, un beau coup de patin, la tête haute, faire des bonnes premières passes. J'ai dit, wow! Il m'a impressionné. Donc, lui, hier, il a gagné beaucoup de points.
Mais tu vois, ils ont attendu, ils l'ont renvoyé dans le junior, on va leur donner le crédit pour ça. Tu sais, ça aurait peut-être pu être tentant de le faire monter vite. C'est vrai qu'on était dans la suite de l'histoire de KK dont on avait précipité l'arrivée dans la Ligue. Mais lui-même, Goulet, il l'a dit. Il dit, j'ai pas tant joué que ça mon année 18 ans. Fait que son année 19 ans, ben, il était le général. Il était changé à date limite des transactions. Il jouait du gros hockey pour son club. Fait qu'il arrive, lui. Tu sais, c'est un gars qui a pas eu l'occasion. Si tu laisses pas le temps à un gars l'occasion de dominer dans un calibre inférieur, m'a dire une affaire, là, c'est toute une commande après ça de jouer à la hauteur des attentes dans la meilleure ligue au monde quand on t'a pas laissé 3 mois pour montrer que tu fais dominer d'une ligue inférieure.
Bon, tu l'as dit, la clé, c'est d'attendre puis d'être patient. Ça, être patient, là, ça, c'est, on parle de la direction du Canadien, d'être patient. On parle des médias, d'être patient. Puis on parle surtout des fans, d'être patient. Puis ça, là, ces trois entités-là, il va falloir qu'on soit patient avec des gars comme Slavskarski, Goulet, Owen Beck dans quelques années, des Barron, des Harris, des Messal. Et ça, le mot-clé, tu viens de le dire, c'est la patience. Puis ça inclut tout le monde à Montréal. La direction, les médias, les fans.
Je crois pas que le monde soit capable d'être assez patient, Stéphane. Ça fait juste 24 ans.
C'est difficile, mais si tu crois, Mario, moi, j'ai eu la chance d'arriver à Chicago quand on était les pires équipes dans la ligue. Et puis la direction nous a dit pendant 4 ans de temps au coaching staff, soyez patients, inquiétez-vous pas pour vos jobs, on est dans un processus. Et puis ça, c'était le fun parce que la direction a embarqué, les médias avaient embarqué, puis les fans, ils savaient ce qu'on s'en venait. Puis,
quand tu dis les médias ont embarqué, Steph, là, ça veut dire quoi ça? Tu demandes
ça? Ça veut dire ça qui panique pas à toutes les fois que 4 défaites en ligne puis qu'ils ne commencent pas à le dire, vouloir, bon, mais que le coach, c'est dehors, puis si, puis c'est ça. Non, ils vont être positifs, puis ils vont être patients parce qu'ils savent qu'on a un plan qui s'en vient. Et puis c'était le fun de voir que à chaque année, pendant 4 ans, on était meilleur que les navets au niveau de notre fiche. On a vu la progression d'année en année. Puis ça, là, tout le monde est embarqué dedans.
Mais j'aime ça, Steph. Mais je m'excuse de t'arrêter parce que as-tu vu le nombre de caméras et de gens qui attendaient Martin Saint-Loup pour sa conférence d'après-match hier? Puis dis-moi s'il y en avait le 40e dans la salle de presse à Chicago pendant ces 4 années-là.
Pas en tout. Même pas proche. C'est sûr.
Fait que penses-tu vraiment que le monde va être capable d'être patient puis que les médias vont embarquer? Je crois pas à ça.
Moi, je crois que dans une couple d'années, ça va commencer. Mais moi, je crois que cette année puis l'année prochaine, les attentes vont être très, très, très basses. Et puis ça va aider à calmer tout le monde. Et puis, l'athlé est là. Je te le dis, Mario, l'athlé est là. Mais je peux pas te dire que ça va arriver parce que, exactement, on connaît tout le marché de Montréal. Mais l'athlé est là. C'est que tout le monde soit patient pour une couple d'années, au moins.
T'es en train de me calmer tranquillement, Stéphane. Là, c'est ta voix grave et calme. T'es en train d'avoir un effet. Et je veux bien te croire. Steph, merci beaucoup. Un bon début d'émission. Parle-moi de ça. Puis écoute, c'est reparti.
Oui. Puis en passant, j'ai aimé hier le Jake Allen et Wanda, hein, by the way.
Oui, monsieur, sa moitié de match était parfaite.
Il y a une présence rassurante dans le filet par la façon qu'il joue, puis par son calme légendaire, puis par la façon qu'il s'exprime dans la chambre. C'est un gars parfait. Je l'ai aimé hier, puis il va calmer ces jeunes-là.
C'est une excellente performance de sa part. J'espère juste que je serai pas nerveux qu'il soit blessé à tout bout de champ, là. Puis que, parce que j'ai encore les réflexes de l'an passé où il me semble qu'il était vraiment pas chanceux. Mais oui, t'as raison, Stéphane. C'est une belle conclusion. Bonne soirée. Puis, on se reparle bientôt.
Parfait, Mario. Bonne soirée.
Bye, bye, Steph. Alors voilà.
Les amateurs de sport.
C'est 23.